7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bienvenue, bonjour, 7 milliards de voisins sur RFI. Et si un autre monde était possible, nous nous interrogeons aujourd'hui avec la revue Oui Demain. Bonjour François Siegel.
Bonjour.
Vous êtes le patron et le cofondateur de la revue Oui Demain. C'est dommage parce qu'à la radio, le jeu de mots n'est pas perceptible. Je vais l'expliquer. Oui, ça s'écrit pas comme oui, le contraire de non, mais comme oui, c'est le nous en anglais, W-E. C'est plus fort finalement que le contraire de non, ce nous, non ?
Oui, ben, c'était un peu ça, c'était oui comme ensemble, hein, parce que c'est la société collaborative qui caractérise globalement le monde de demain, quoi. C'est ce monde qu'on se construit, avec la réunion un peu de tous les individus et de leur volonté, puis on s'aperçoit que cette société, c'est ça qui est en train de se mettre en place, et puis demain, quoi.
Le nouveau numéro, juin-juillet, vient de paraître, mais bien sûr, il y a aussi un site internet, ça c'est pour les 7 milliards de voisins. Cette revue qui a un peu plus de 2 ans est quand même un ovni dans la presse pressée, stressée. On prend le temps d'imaginer demain, d'admirer les photos aussi d'une grande qualité, de rêver à un autre monde, mais surtout de se prendre à réaliser que l'individu peut reprendre la main sur un destin commun. Oui, demain aurait pu s'appeler aussi Yes We Can, mais c'était pris. Non ?
Oh, on aurait pu, oui, hein, parce que le CAN, il y a un déterminisme volontaire dans le Yes We Can, effectivement, mais c'est le moment, hein, je veux dire, on est vraiment dans
un changement d'époque. C'est le moment, et c'est pour ça que vous êtes là. Yves Yard, vous êtes journaliste indépendant, vous collaborez à la revue des sujets qui touchent à l'énergie et à l'environnement pour Oui Demain. On parlera entre autres avec vous deux des maisons autonomes en énergie, des déchets alimentaires. Les sujets des enquêtes sont très nombreux dans votre revue, parce que c'est une grosse revue qui se garde dans une bibliothèque, et puis bien sûr, il y a des déclinaisons sur le site internet, accessible à tout moment, Oui Demain. Et en deuxième partie d'émission, un reportage dans la même catégorie, Tout est possible. Et si demain, la Côte d'Ivoire transformait elle-même ses noix de cajou au lieu de les exporter brutes, notamment vers l'Asie. Rencontre avec Massogbé Touré Diabaté, c'est une femme industrielle qui y croit. Et bien sûr, les voisins, vos commentaires en direct sur Twitter. François Siegel, alors comment donc est née l'idée de la revue Oui Demain qui a un peu plus de 2 ans, c'est encore un bébé dans la presse.
Elle est née d'une envie, hein, parce que je crois que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, nous on fait jamais d'études.
On ne fait pas d'études de marché, ni pour le site internet,
on y va et puis après on corrige les erreurs, c'est-à-dire que si ça marche pas, on ferme.
Vous avez une petite carrière dans la presse derrière vous, ceci
dit. On passe à autre chose.
Donc
ouais,
on doit mouiller.
Bon,
alors,
c'est la presse, hein, il faut être humble, je dirais, par les temps qui courent. Et c'était une envie. Quand j'ai eu l'idée du Monde 2, je me promenais au volant de ma voiture, je me suis dit tiens, le Monde, ça peut se relire. Et puis j'ai tout de suite eu l'idée d'associer des images et les textes de qualité du Monde. C'est comme ça qu'est né le Monde 2. Bah, je crois que, en fait, la presse, elle sert à quoi ? Elle sert à raconter son époque. Hein, je crois que c'est sa plus belle mission. Je dirais aujourd'hui, des médias papier, hebdomadaires, quotidiens qui racontent, on va dire, le quotidien, l'actualité. Il y en a, quoi. Ça ne manque pas. Donc, et puis on s'est dit, bah, à partir de 2008, là, on est en train de vivre un changement d'époque. Chacun dit, comme il n'en s'en passe que dans les 3 ou 4 siècles, chaque 3 ou 4 siècles. Donc, on s'est dit, bah, s'il n'y a pas matière à faire de la presse autour de ça, et puis on a réfléchi, puis on s'est dit, bah, ce changement d'époque, c'est quoi ? C'est la gouvernance, l'énergie, la façon de vivre, la santé, l'alimentation, la façon de s'habiller, les transports, tout ce qu'on peut appeler l'écomobilité. Si tout ça, ça peut pas
tout
se mettre dans une boîte
et se raconter. Tout ce qui fait une vie quotidienne, finalement. Hein.
Comment ?
Tout ce qui fait la vie quotidienne.
Tout ce qui fait la vie quotidienne, bien sûr. Nous, on est un magazine de la vie quotidienne. Je me bats en permanence avec les équipes pour leur dire ça. Voilà. Nous, on se raconte, quoi. Je veux dire, c'est la vie quotidienne.
Ouais.
Voilà. Simplement, c'est la vie quotidienne en mode demain, quoi.
Donc avec quand même du technologique, de l'environnement. Vous aimez commenter finalement à la fois l'avancée inexorable du Front National en France, ça c'est pour votre édito, le dernier édito, et la décision des Rockefeller aux États-Unis de se désengager du business du pétrole et du gaz, ce qu'on raconte moins d'ailleurs.
Ah mais ce qui est, quand on est dedans, Hein, je veux dire, nous qui observons avec des yeux de journalistes et non pas de partisans. Hein, je veux dire, on n'est pas des engagés de l'environnement, on n'est pas des militants, etc. On est des, nous sommes des journalistes qui observons. Et la constatation que je fais de ces deux ans, en gros, c'est que le monde avance à une vitesse hallucinante et que parfois chez nous on est un peu obscurantiste, c'est-à-dire qu'on est tellement je vois pas le Premier ministre dire l'atome c'est fini, il faut passer aux énergies renouvelables, il peut pas le dire. Mais nous ce qu'on dit, attendez, regardez, les énergies renouvelables, elles sont en train de gagner le monde entier. Et j'avais pris cette formule quand même des Rockefeller, quand même une des plus grandes familles américaines, qui disait, si notre grand-père était toujours de ce monde, il aurait dit le pétrole c'est fini, il faut s'engager vers les énergies renouvelables. Voilà. Donc voilà, nous, notre boulot, c'est d'observer partout le monde en disant, regardez là, regardez un peu ce qui se passe, regardez cette transformation, regardez ce pays, regardez cette ville, etc.
Mais alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une longue carrière derrière vous, mais vous vous intéressez aussi à cette nouvelle génération, et surtout à cette nouvelle génération archidiplômée, très consciente, qui est en train d'émerger, notamment aux États-Unis, mais pas forcément, hein, ça peut être en Inde et ailleurs, et qui s'intéresse davantage au réchauffement climatique qu'au djihad, finalement, comme enjeu de politique étrangère.
Bah, je dirais, globalement, il faut que les choses avancent. Le djihad, je dirais, malheureusement, on est obligé de vivre avec, voire, je dirais, de vivre contre. Mais la technologie, le monde de oui demain, je veux dire, c'est le monde de la technologie inarrêtable. Hein. Vous parliez du savoir partagé, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Une grande université américaine a aujourd'hui les diplômes avec ce qu'on appelle les MOOC, les Massive Online Open Course, etc. Dans les 800 premiers diplômes décernés par une des grandes universités américaines, le premier venant, on va dire, d'une université en bois, briques, papier, avec des sièges, du béton, etc., est arrivé à la 800e place.
C'est-à-dire que les 800 premiers des meilleures qualités d'étudiants de ces universités qu'on connaît dans le monde entier, les universités américaines, ce sont des étudiants qui ont étudié à distance et qui sont aux quatre coins du monde.
Steve Jobs de demain, il viendra d'Afrique, il viendra du Bangladesh, il viendra d'Inde, mais il viendra pas forcément de Stanford
c'est
University.
C'est vrai que quand on lit ça fait un choc, ce chiffre-là.
C'est un choc.
Les 800 premiers ne sont pas allés physiquement à l'université.
La révolution du savoir partagé. Ce que dit Rifkin, il dit un truc formidable à propos des énergies. Il dit, si on vous avait dit il y a 25 ans qu'avec un téléphone, on aurait accès à toute la culture du monde gratuitement et en un clic, personne ne m'aurait cru. Je vous dis aujourd'hui que dans 25 ans, ou peut-être même avant, l'énergie solaire sera l'énergie dominante dans le monde. Il y aura des panneaux peints dans les appartements, sur les toits, etc. Pour un prix qui sera celui, effectivement, d'une puce aujourd'hui, parce que le solaire, ce n'est pas une matière fossile, c'est une technologie. Voilà. C'est une technologie dont le prix ne cesse de baisser et dont le rendement ne cesse de s'améliorer, etc. Voilà.
Alors donc justement,
qu'on raconte.
Yves Heuillard, donc vous êtes journaliste spécialisé en énergie et en environnement, vous avez été visiter une famille passive dans la région de Bruxelles qui habite une maison qui, à première vue, a l'air d'une maison moderne. C'est pas un immeuble ancien, mais soit.
Non, c'est pas une maison dans la région de Bruxelles, c'est une maison dans la région parisienne.
Ah
donc,
pardon, oui.
Voilà, donc c'est un couple de la région
exact,
parisienne, de l'ouest de Paris.
Voilà, il y a aussi des maisons des constructions passives dans la région de Bruxelles.
On pourra parler de Bruxelles après. Ce couple cherchait une maison en région parisienne et ils ont vu plusieurs promoteurs, etc. Et ils n'ont pas trouvé leur bonheur. Et ils ont découvert qu'il existait des maisons qui ne consommaient pratiquement pas d'énergie, qu'on appelle des maisons passives. Ils n'y connaissaient absolument rien. C'est pas du tout un couple qui était versé dans l'écologie. Donc ils ont décidé de construire une maison passive. Alors une maison passive, qu'est-ce que c'est? C'est une maison qui consomme, on va dire, de l'ordre de 10% de la consommation d'une maison qui a été construite il y a 20 ans, 20 fois moins ou 30 fois moins qu'une maison ou un logement, un bâtiment qui a été construit dans les années 50 ou 60, et donc qui peut se chauffer pratiquement par la seule présence des habitants, leur activité dans la maison, et il manque un tout petit peu d'énergie.
C'est ça, alors ouais. Il raconte d'abord, ce qui est intéressant, c'est que sur les photos, on les voit dehors, donc en plein hiver, avec des doudounes, vraiment des vêtements d'hiver, et à l'intérieur l'intérieur, chez eux, il chauffe quasiment pas.
À l'intérieur, le jour où nous
y sommes allés, le jour où vous y êtes
non seulement il n'y avait pas de chauffage, mais il faisait très très chaud et les fenêtres étaient ouvertes parce que il faisait très chaud. Ouais,
et alors passer l'aspirateur, c'est ce qu'ils racontent hein, cette famille, donc dans les Yvelines, en région parisienne, ça fait monter la température de la maison.
Oui, parce que c'est une maison passive, c'est une maison qui était extrêmement isolée. On a 30 cm d'isolant sur les murs, sur les toits, qui est extrêmement
verre très épais.
Des triples vitrages qui sont extrêmement épais, isolants, et la maison est très hermétique. Donc le moindre dégagement de chaleur, celui qu'on fait pour la cuisine, l'aspirateur, le bain, les douches, ça suffit pratiquement à chauffer de la maison. Il ne faut pas ajouter grand chose.
Et puis il y a aussi le soleil qui rentre dans la maison par des ouvertures très
absolument,
larges.
Absolument. Alors le seul problème qu'on a dans la maison passive, mais en fait c'est pas réellement un problème, c'est plutôt une opportunité, c'est qu'il faut ventiler. Donc on ventile, mais quand on ventile, on prend de l'air intérieur qui est chaud et on ramène dans la maison de l'air très froid. Donc on a inventé, mais ça existe depuis presque toujours, la ventilation double flux qui permet de reprendre les calories de l'air qui sort de la maison pour les réinjecter dans l'air qui rentre. Et ça, c'est complètement magique. On chauffe la maison uniquement avec la ventilation.
C'est accessible ça aujourd'hui en termes de prix, très honnêtement.
Alors, c'est accessible.
On parle là d'une famille bruxelloise, parisienne, peu importe.
On peut, puisqu'on on a démarré sur Bruxelles. On peut parler de Bruxelles. À Bruxelles, depuis le 1er janvier de cette année, on construit passif. À la suite d'un long processus de tests avec les promoteurs, les constructeurs, les architectes, etc., Bruxelles a décidé de ne construire maintenant que des immeubles passifs.
Donc avec l'implication de la ville?
Avec l'implication de la région, hein, c'est de la région Bruxelles, voilà. Et on s'est aperçu très rapidement qu'aujourd'hui construire passif à Bruxelles, ça coûte pas plus cher que de construire comme on construisait avant. C'est exactement le même prix. Et en fait, c'est moins cher parce que si on calcule le coût du bâtiment sur 20 ans ou sur 30 ans, comme il n'y a pas d'énergie. Le bâtiment est moins cher.
Oui, mais à l'échelle d'une famille.
À l'échelle d'une famille, si on est locataire, bien évidemment, on s'en aperçoit pas. Mais si on achète, si on investit dans un logement, investir dans un logement passif, d'abord, un, c'est pas plus cher, en tous les cas, à Bruxelles. Et dans le temps, on gagne de l'argent.
Mais on, oui, François Sigel.
Je veux dire, ce qui est très important dans ce marqueur d'époque, c'est qu'en France, en ce moment, on est en plein débat sur la loi, sur la transition énergétique. Yves ne me contredira pas, au contraire, c'est effectivement pour arriver à ces objectifs effectivement de consommation d'énergie, de consommation de carbone, la meilleure, j'irais, des solutions pour y arriver, c'est les économies d'énergie. Donc pourquoi est-ce qu'en France on ne fait pas ce que la Belgique ou la Wallonie a été capable de faire?
Là vous parlez pour les pouvoirs publics.
Oui,
hein,
je parle des pouvoirs publics.
Investissent de l'argent public.
Bien sûr qu'il faut, il y a un moment, il faut oser pour transformer les choses. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, on va y arriver hein, sur, j'irais, la construction passive. C'est comme le diesel. Au bout d'un moment, bah, vous allez vous retrouver pendu avec votre voiture diesel qui vaudra plus rien sur le marché, etc. Parce qu'effectivement, on aura trop attendu, etc. Mais sur les maisons, là aussi, il y a un enjeu qui va être absolument considérable. Je comprends d'ailleurs que le gouvernement y aille avec prudence. Mais en tout cas, la meilleure, j'irais, des solutions, effectivement, pour arriver aux objectifs d'émissions de carbone qui sont ceux de 2020 ou 2030, ça serait d'imposer effectivement la construction passive.
Vous avez visité un village aussi en Bavière. Non, c'est pas vous, mais il y a un article. En tout cas,
oui,
il y a un reportage.
Absolument.
Un village qui est complètement autonome en énergie, en Bavière, en Allemagne.
Alors, il est plus qu'autonome. Ce village de Wilpolstried, qui est à l'est du lac de Constance, est un village qui avait donc prévu, à la fin du siècle dernier, dans les années 90, de devenir autonome en électricité d'ici 2020. Et en fait, ils sont allés beaucoup plus rapidement aujourd'hui, 17 ans après. Ils produisent 5 fois plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Et ils ont donc c'est une démarche participative. Ce sont les habitants eux-mêmes.
Donc ils la retransmettent,
donc ils gagnent de l'argent. Donc aujourd'hui, ils ont une facture négative. Le village, 2500 habitants, à la fin de l'année, reçoit 4,5 millions d'euros de vente de l'électricité.
C'est ça, pour investir dans d'autres choses, de l'éducation, des écoles, enfin des structures publiques qui servent à tous.
Ah, mais c'est mieux que ça, parce qu'en fait, on vient du monde entier maintenant dans ce village, qui s'appelle maintenant, il l'appelle Das Energiedorf, le village de l'énergie. Donc on vient du monde entier, sauf de France d'ailleurs, parce que ça n'a pas l'air d'intéresser. Le maire de Fukushima y est venu 2 fois, pour voir comment ça se passe. Ils ont créé un centre de formation. Une entreprise de construction de batteries pour les panneaux solaires s'est installé là, parce que c'est le meilleur endroit, puisque tout le monde y vient. Et donc, ils ont créé, pour un village de 2500 habitants, ils ont créé 140 emplois. Et les agriculteurs qui vivaient avant du lait vivent aujourd'hui beaucoup plus confortablement de l'électricité qu'ils produisent.
Ce sont les sujets qu'on trouve dans la revue Oui Demain sur le site internet. Vous restez avec nous, François Siegel, Yves Yard.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Le monde est un village planétaire.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
Malgré toutes nos différences, il y a toujours quelque chose, quelque part, qui nous rapproche.
Eh ben tiens, il y a quand même une émission qui pense à tout le monde.
Il y a tellement de richesses ailleurs.
7 milliards de voisins. Et entre nous, là, entre les voisins.
7 milliards de voisins ?
Oui.
C'est maintenant.
7 milliards.
Ça réagit ?
Ça réagit. Effectivement, nos auditeurs, nos 7 milliards, toujours dans la réactivité par rapport à ce qu'ils entendent dans l'émission. Je vous cite un internaute, Laurent Bolo, qui dit « Mais si on veut réinventer les modèles, pourquoi parler du futur Steve Jobs ? Changer le monde signifie peut-être ne pas reproduire les modèles du XXe siècle. » Steve Jobs, ça énerve, hein, finalement. « La crise devrait nous enseigner des voies différentes que l'argent, le pouvoir, la possession et les élites. » Non. Ah, il n'a pas aimé l'exemple.
Non, mais peut-être que Apple n'est pas effectivement le meilleur exemple. Et je dirais globalement la réussite est là. Et quand même il y a quand même aujourd'hui quand même des. Alors évidemment, il y a des cerveaux. On attend de savoir effectivement quelle est la vocation, on va dire humaniste ou humanitaire d'Apple. Ça, c'est sûr que globalement, à part faire des bénéfices dans des paradis fiscaux, on a un peu de mal à la voir.
Il y a aussi le message d'Inès qui est à Cotonou au Bénin. Il est vrai que nous sommes capables de changement et d'inventivité par instinct de survie. Je me demande si ces initiatives sont réellement impulsées par la crise ou si elles ne sont que le fait de l'évolution naturelle des civilisations.
C'est forcément, c'est totalement exact. C'est totalement exact. La crise est une raison d'innovation.
Mais accélérateur d'une évolution naturelle.
Et d'invention, l'économie, c'est des cycles, hein, c'est des up and down, etc. Bon, il y a des théories là-dessus. Je pense que nous, on est vraiment dans un nouveau cycle, hein, celui-là. Mais bon, là, c'est après une émission à part entière. Mais si on regarde la crise, elle est très bien expliquée. La crise de 29, je dirais, elle a vu naître quoi, la crise de 29 ? McDonald's. Alors, McDonald's, c'était quoi ? C'était se nourrir avec les calories suffisantes pour peu cher. Elle a vu naître Converse. Converse, c'était quoi ? C'était se chausser quand il y avait plus de cuir, c'est-à-dire avec du caoutchouc. Et globalement de la toile. Elle a vu naître effectivement les supermarchés, les low cost, etc. Parce qu'il fallait des réponses à des gens qui n'avaient plus d'argent. Évidemment, aujourd'hui, on est.
Restons dans le frugal. Ça n'empêche pas de se nourrir. Le frugal, cuisiner. Il y a un sujet là-dessus dans votre revue. Oui demain, cuisiner avec des déchets alimentaires. Ça, c'est très oui demain. Vous nous donnez quelques exemples ou c'est moi qui vais lire les recettes ?
Oh, vous lirez les recettes bien mieux.
Risotto cuit avec un fumet de noyau d'olive servi avec des arêtes de sardines croustillantes.
C'est pas un gag. C'est une femme qui s'appelle Sonia Esgulian, qui est une ancienne cuisinière, ancienne journaliste, je crois, à Paris Match, qui fait un livre qui cartonne, hein, qui est un best-seller, et en gros qui revient à des méthodes, je dirais, de récupération, hein, c'est-à-dire les radis, au lieu de balancer les fans de radis, vous les faites revenir, et puis ça fait des légumes délicieux. C'est en gros tout se transforme. Alors évidemment, quand on dit des arêtes de sardines, c'est pas terrible les arêtes de sardines. Mais qu'est-ce que fait ? Elle les concasse, elle les fait frire, et puis elle en fait une pâte pour mettre sur du pain, parce que d'un seul coup, ça donne du goût. Parce que souvent, effectivement, dans ces parties délaissées, effectivement, il y a se cachent des goûts et des saveurs. Alors, un trognon de pomme peut se transformer en pâté, des veines de foie gras deviennent du beurre, voilà, et des sardines frites, des tartines. Voilà.
On revient à la bonne soupe paysanne d'il y a quelques siècles, finalement, qui avait un goût de viande sans viande.
Bien sûr, c'est astucieux, il faut être astucieux. Faut avoir du temps quand même, faut avoir un peu de temps, un peu de génie, un peu d'envie, mais voilà, tout se recycle.
Vous restez avec nous, la revue Oui Demain, il y a bien sûr une déclinaison internet, hein, là on a la revue parce que c'est vrai que c'est aussi un plaisir
et
de
tablette maintenant,
et tablette,
est, et tablette hein. Maintenant.
Alors là avec de l'immédiateté, avec de tablette. L'alimentation avec des sujets.
Ah bah le site, hein, c'est évidemment c'est une rédaction à part effectivement qui développe effectivement des sujets, on va dire d'actualité immédiat évidemment dans la planétosphère Oui Demain. Et puis maintenant Oui Demain existe sur tablette, là c'est tout nouveau.
Vous restez avec nous François Siegel et Yves Heuillard, on se retrouve juste après le flash. D'ici là les voisins, vous allez faire justement un tour sur le site internet Oui Demain, Oui W E, hein, car le monde de demain s'écrit à plusieurs. Et en deuxième partie d'émission, on parlera par exemple de cette singulière université en Californie, de la France, premier producteur mondial de lin. Puis on aura un reportage aussi en Côte d'Ivoire. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Après le flash, nous revenons 7 milliards de voisins avec la revue Oui Demain pour sentir, mesurer, analyser, comprendre les transformations du monde. Avec vous, François Siegel, vous êtes le cofondateur de la revue Oui Demain. La revue papier, c'est près de 200 pages. Et puis, il y a la déclinaison Internet, évidemment, pour les 7 milliards de voisins. Yves Heuillard, vous êtes journaliste indépendant. Vous collaborez à la revue. Et c'est vrai que c'est d'une extrême richesse. Vous nous le disiez en première partie d'émission, François Siegel. L'idée, c'est de comprendre tout ce qui va très vite, mais en prenant du temps et tout ce qui a une influence sur notre vie quotidienne. Parce que c'est vrai que dans votre revue, il y a beaucoup de sujets sur l'environnement, sur la haute technologie, mais tout cela a une influence et une incidence sur notre vie de tous les jours, où que nous soyons d'ailleurs sur la planète, parce que aucun continent n'est épargné par ces changements-là, François Siegel.
Aucun. Et puis, si on parle de l'Afrique, ça serait dommage de reproduire les modèles du XXe siècle. On est au XXIe siècle, là, il faut raccourcir les circuits. Je veux dire, c'est vous voyez, créer des pipelines, des routes, des ports, effectivement, pour transporter du pétrole quand il y a le soleil à disposition. Je veux dire, ça semble aujourd'hui, vous voyez, avec toutes ces infrastructures que ça demande. Je veux dire, c'est pour ça que, bon, les projets de Borloo sur l'Afrique doivent être regardés de près et étonnés. Je veux dire, l'Afrique peut être... On dit que le seul Sahara, pourrait fournir toute l'électricité, l'électricité du monde.
Ça fait l'objet quand même de très longs débats. Hein. Ouais. Il faudrait plusieurs heures d'émissions de radio pour trancher sur ce sujet-là. Alors, vous êtes, il y a un article dans la revue sur une université très particulière qui s'appelle la Singularity University en Californie, dans la Silicon Valley d'ailleurs. C'est pas tout à fait une université qui reçoit des étudiants à proprement parler d'ailleurs.
Non, c'est une université qui est à Boulder, Colorado, qui est une ville en elle-même, en soi, assez magique, hein, parce que globalement, c'est un peu un des creusets, je dirais, de l'Amérique pensante. Et effectivement, alors, elle est dirigée par deux personnages totalement incroyables. Un s'appelle Peter Diamandis et l'autre Ray Kurzweil. Alors, Ray Kurzweil, son surnom, c'est de Ultimate Machine. Hein, ça veut dire, le garçon qui est presque plus intelligent que tous les autres. C'est le directeur globalement du développement de chez Google, et c'est l'homme qui, alors tout ça peut être totalement effrayant, hein, je dis pas, mais globalement il faut faire avec, hein, ce monde-là existe, hein, c'est les gens, je dirais, qui sont les plus en avance sur l'intelligence artificielle et qui travaillent sur cette singularité. Et la singularité, c'est quoi? C'est l'âge, le moment qui se rapproche de plus en plus où la machine deviendra plus intelligente que l'homme. Voilà. Alors, la robotisation, les micro-robots, les nanorobots, et puis globalement, qu'est-ce qui va rester à l'homme? Se terrer, fermer les yeux ou s'augmenter. Hein, je dirais se greffer, je dirais, de toutes les capteurs possibles et imaginables pour ne pas se faire totalement dépasser par la machine. Voilà. Donc, pour la première fois, un Français, c'est pour ça que on a raconté, il a été vivre cette singularité université et voir ce qu'on pouvait y trouver. Et ce qui est intéressant,
alors c'est pour un noyau de privilégiés. Hein, universités sont essentiellement des entrepreneurs qui viennent.
Ce sont des entrepreneurs, je crois que
c'est 12 000 dollars la session, il me semble.
Alors, Je crois que pour y assister, en tout cas quand on est, on va dire, étudiant, etc., c'est pas si fermé que ça. Par contre, venir en tant qu'observateur, je crois que ça doit coûter 12 000 dollars la semaine, donc c'est un peu c'est un peu cher. Mais ce qui est intéressant dans cette singularité université, c'est qu'ils sont persuadés que c'est la technologie qui sauvera le monde et que globalement sur les problèmes d'eau, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'énergie, etc., la technologie va tout régler. Voilà. Encore une fois, nous on prend, on regarde, on raconte.
C'est la force de la revue d'ailleurs, vous ne prenez pas parti là-dessus. On redécouvre des chiffres finalement d'ici pas si, enfin qu'on n'a pas vraiment gravé dans notre tête. Hein. D'ici 5 ans, 2 milliards d'humains vont accéder à Internet. Oui, ça fait un petit peu de monde tout de même. Et puis alors, sans transition, je voudrais justement, vous nous parliez de l'âge. Il y a un très beau reportage photo avec des photos tout à fait étonnantes sur l'âge. Bon, la planète vieillit, ça on le sait, y compris le Sud d'ailleurs, qui a déjà commencé à vieillir, pas seulement les pays du Nord. Ça s'appelle Après l'âge, cet article. Je rajouterai, c'est encore l'heure de vivre et d'en profiter. Rien qu'en France, les plus de 60 ans sont pour la première fois plus nombreux que les moins de 18 ans, bien qu'on ait un bon taux de natalité qui assure le seuil de remplacement des générations. Et le reportage photo, ce sont des personnes très âgées, plus de 70 ans, qui se mettent à pratiquer un sport, pour certaines d'ailleurs très tard, et c'est tout à fait étonnant.
Ah oui, on est un peu tombé en arrêt, un peu et amoureux de ce reportage, parce que ça, on montre
beaucoup d'Américains d'ailleurs dedans.
Comment
tas, hein.
Les Américains, il y a des
rien
Russes,
alors,
ils sautent en parachute, c'est des marathoniens, ils font de la gym extrême, mais de la danse, c'est peut-être pas du hip-hop, mais effectivement de la danse assez sportive. Et globalement, c'est des gens qui démarrent à 60 ans, 65 ans, 80, 90 ans, etc. Et on s'aperçoit qu'on peut être en forme.
Alors on voit un monsieur de 79 ans qui fait du skate. Board, une dame de 80 ans qui est sur la glace et qui fait du patin à glace, effectivement le saut en parachute, mais alors certains ont toujours été assez athlétiques et d'autres disent non, je m'y suis mis à 60 ans, c'est-à-dire ouais. Encore une autre vie qui commence.
Voilà, ben, je vais peut-être y aller, quoi. Il est peut-être pas trop tard. Mais non, ce qui est intéressant aussi, toujours pareil dans ce sujet-là, c'est en gros, c'est de raconter les choses un peu en perspective. C'est-à-dire, un des défis du monde de demain, c'est il est évident qu'on vivra de plus en plus vieux. Laurent Alexandre, qui est un de nos chroniqueurs, le dit. Il dit voilà, l'homme de 150 ans, il est déjà parmi nous, il est déjà né aujourd'hui. Et en gros, un des défis de l'humanité, c'est comment on va vivre, parce que maintenant on commence à même plus employer le mot de travailler, comment on va pouvoir vivre vieux, en bonne santé, globalement, c'est pour ça qu'il faut inventer un nouveau modèle de société, que les sociétés, on va dire, capitalistes, productivistes, effectivement, telles qu'on les a connues, je veux dire, aujourd'hui, elles vont être un peu condamnées. Donc c'est pour ça que ce reportage-là, bon, il est gentil, c'est des jolies photos, c'est très spectaculaire, mais globalement, c'est aussi dans une des grandes perspectives du moment.
Tout ça est rendu possible là aussi avec les avancées de la science, parce que on a des hanches artificielles, des épaules artificielles,
ouais,
etc.
Sûr.
Et puis un cœur remis. Ouais.
Et puis qu'on a la chance de qu'on a la chance de vivre effectivement aussi en bonne santé. Etc.
Alors, on peut pas énumérer tous les sujets qu'on trouve dans la revue Oui Demain. Il y a un sujet moi que je trouve intéressant qui se rapporte à la France. La France premier producteur mondial de lin. Pour ceux qui savent pas exactement ce que c'est que le lin, Yves Yard, est-ce que vous voulez en dire un mot ou François Siegel? C'est évidemment davantage et essentiellement utilisé dans le textile, mais pas seulement, là aussi pour de l'isolation dans le bâtiment. C'est une matière, alors j'ai découvert, qui n'a pas besoin d'irrigation.
Oui,
notamment.
Oui, ben moi aussi j'ai découvert ça aussi, parce que effectivement on porte tous des chemises en lin qui ont la capacité effectivement de se froisser assez vite, etc. Mais bon, enfin on porte tous, on sait ce que c'est que le lin effectivement dans l'habillement. Oui, ce qu'on aime bien nous à Oui Demain, c'est aussi être un peu anti French bashing, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on trouve un truc ou plutôt en France ça va bien, ben on a plutôt tendance à le dire. Quoi. On avait consacré d'ailleurs il y a quelques éditions un numéro complet qui s'appelait Tout va bien. Bon, c'était certes un peu provoque, mais on disait quand même il y en a un peu assez. Et ben là, on a découvert que la France est le premier producteur de lin au monde. L'Europe produit, je crois, 80% de toute la production de lin du monde. Dans ces 80%, la France 70%. Et ben les Chinois viennent nous acheter du lin en pagaille au kilomètre, etc. Voilà. C'est un petit.
Ce que les Européens ne savent pas d'ailleurs.
Quand on fait des sondages, personne ne sait
d'où vient le lin. Tout le monde pense qu'il vient d'Asie, alors que les Chinois sont les premiers consommateurs de lin et achètent aux Européens. Bon, ça reste la production de lin aussi, c'est ce qui est raconté dans l'un des articles, la production de lin en France avec zéro irrigation, zéro défoliant, zéro déchet, zéro OGM. Alors c'est pas la production majoritaire de lin, hein, mais cette production là, elle a augmenté de 14% entre 2013 et 2014.
Bah oui, in lino veritas, quoi. Voilà, il faut tous s'habiller en lin, voilà, comme ça on va effectivement protéger les terres, ne pas produire d'OGM, ne pas irriguer, etc.
À quel sujet vous réfléchissez là pour les prochains numéros?
Alors, les prochains numéros, la fin du travail. la fin du travail. Là, on a lancé des grandes enquêtes là-dessus, c'est-à-dire
en fait comment... Ça ne sera pas un sujet ni sur vraiment l'environnement ou la technologie, ça sera de l'ordre de l'humain et du temps.
L'environnement, la technologie, c'est... Non, il y a une chose qui nous amuse aussi dans les prochains numéros, le fameux Ray Kurzweil, un des patrons de la Singularité Université, il prend... Alors lui, il a 70 ans et il veut pas mourir. Lui, il veut connaître l'avenir de ce qu'il est en train d'inventer. Et ce gars-là, il prend un cocktail de 1000 euros par jour de pilules, voilà, de pilules pour justement être plus intelligent, ne pas vieillir, etc. Donc on va s'intéresser entre autres à ce que mange, c'est quoi ces 1000 euros de pilules par jour. Ça fait quand même 360 000 euros. Il y a intérêt à ce que ça marche. Voilà. Donc ça, c'est un petit gadget. On va s'intéresser à la fin du travail, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, alors, c'est quoi le monde où il y aura de toute façon moins en moins de travail, parce que les robots sont en train d'arriver à une vitesse absolument hallucinante. Chez Foxconn en Chine, qui fabrique nos chers iPhones et nos chers Samsung et tout ce que vous voulez, voilà, qui a été déjà produit à des coûts chinois, bah c'est trop cher. Maintenant ils sont en train de remplacer les esclaves chinois par des robots. Monsieur le patron de Renault, là, Carlos Ghosn, disait que les Roumains c'est trop cher maintenant pour produire des voitures. Donc plutôt que de les exporter au Maroc, et bah il va remplacer évidemment les travailleurs roumains par des robots. Donc de toute façon, là aussi c'est pareil, on pourra pas lutter contre. Et donc quelle société on va inventer? Parce qu'on a intérêt à l'inventer, parce qu'autrement ça va quand même se passer très très mal. Hein. Je veux dire, quelle société on a intérêt à inventer pour que les gens vivent plutôt bien ensemble et vivent très très vieux. Donc c'est la fin du travail avec une idée dont on reparlera et je pense qu'on va à la retraite, c'est le salaire universel. C'est globalement, on va...
Là, vous êtes très 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 en avance décidément.
Oui, on est en avance. Hein. Sur l'énergie, on était aussi en avance, sauf que globalement, le monde entier est en train de passer au solaire. Hein. Le tout, c'est... Voilà, c'est pas rater les trains quand ils arrivent dans les gares.
Yves Veillard, vous, sur quoi vous travaillez pour les prochains numéros?
Moi, je suis toujours l'actualité de l'énergie, en particulier ce qui se passe chez nos amis allemands. Vous savez que les Allemands, on a parlé tout à l'heure d'un petit village qui produisait 500% de son électricité, mais l'Allemagne tout entière est en train de se diriger vers un objectif de 100% de l'électricité fabriquée avec des énergies renouvelables, 60% de l'énergie totale de l'Allemagne fabriquée avec des énergies renouvelables. Et ça, c'est un sujet absolument extraordinaire. Les Allemands sont en train de nous faire gagner des décennies dans la lutte du réchauffement climatique. Alors que ce qui se passe à Whipple Street, par exemple, ne peut pas se passer en France. À l'île de Sein, les habitants de l'île de Sein se battent depuis des années maintenant pour pouvoir simplement installer des éoliennes. On est au bout de la péninsule bretonne et produire leur électricité eux-mêmes.
Oui.
Mais en France, on a un monopole qui s'appelle
l'individu
EDF,
au cœur. L'individu voilà. Au cœur, donc pour l'avancée des technologies, mais aussi parfois parce qu'il y a des freins dans la tête. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
Ouais.
Reportage dans quelques instants en Côte d'Ivoire. Et si ce pays, qui est l'un des premiers producteurs de noix de cajou, se mettait à transformer entièrement ses noix sur place au lieu de les exporter brut? Bon, on va en parler. Ça sera juste après Mélissa Lavo chez 7 milliards de voisins.
Calling some friend, trying to cash some check. He said you're acting dumb. Well, that's what you've come to expect.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI. On dit d'elle que c'est la nouvelle pépite de la Côte d'Ivoire. La noix de cajou fait désormais partie des produits agricoles les plus exportés du pays, avec le cacao et le latex. La Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial de noix de cajou brute, derrière l'Inde. Mais les anacardes ivoiriennes, puisque c'est l'autre nom de la noix de cajou, ces anacardes sont transformées au Ghana et au Vietnam. Dans son usine au nord du pays, une femme industrielle, Massogbé Touré Diabaté, transforme depuis 15 ans la noix de cajou. Et notre reporter Charlie Dupiot l'a rencontrée dans son entrepôt à Abidjan. C'est de là en fait que partent les containers pour l'exportation, remplis des noix de cajou, cette fois-ci salées, huilées. Elle donne les dernières instructions.
Venez avec les cartons. On sait que c'est 750 cartons qu'on met dedans. Vous avez vérifié le contenu du container?
Oui madame, on a vérifié le conteneur, on attend que l'agent passe les cartons et tout.
Vous êtes monté dans le conteneur, contrôlé si c'est propre, s'il n'y a pas de fuite, il faut que la douane arrive. Les dockers, vous les avez appelés, oui, tout est prévu.
Ils sont voilà, déjà prêts.
Okay, d'accord, donc positionnez le camion pour qu'on puisse commencer l'empotage dès que tout le monde est présent.
Qu'est-ce que ça veut dire l'empotage?
L'empotage, c'est les opérations maritimes que nous faisons pour respecter les normes internationales pour pouvoir expédier un produit. C'est un peu ça notre quotidien chaque mois. C'est cette gymnastique, c'est cet exercice que nous faisons. On court derrière le navire qui doit partir d'ici après-demain. Les cartons sont là, le camion arrivé d'Odienné sur le site de l'usine justement. Dans le nord, nous sommes à 850 km et nous produisons sur place et après nous mettons dans les camions.
Donc là, cette marchandise dans le conteneur ira jusqu'au port d'Abidjan, oui, pour partir en bateau.
Et ce produit va à la destination des États-Unis. À l'époque, quand je me suis lancée, quand on faisait la noix de cajou, j'étais seule. Et avant de faire l'usine en 80, nous avons commencé d'abord par planter. Et au bout de 4 ans, nous avons eu les premiers fruits.
Mais quand vous vous êtes lancée dans la noix de cajou, très peu étaient plantés en Côte d'Ivoire?
Oui. Il n'y avait rien du tout à Odienné. C'est une région
au nord de la Côte d'Ivoire.
Au nord de la Côte d'Ivoire, qui était placée comme l'une des régions les plus pauvres de la Côte d'Ivoire. Il fallait chercher une alternative pour pouvoir créer de l'emploi, de la richesse pour la région. Nous avons trouvé que l'anacarde était une culture même d'exportation.
L'anacarde, c'est l'autre nom de la noix de cajou.
Voilà, l'anacarde, c'est l'anacardie, l'arbre qui donne la noix de cajou. On a commencé par la production, mais on s'est dit qu'il ne fallait pas s'arrêter en si bon chemin. Après la production, nous attendons le retour sur investissement. Ce retour sur investissement ne peut pas se faire sans la maîtrise de la transformation. Il y avait suffisamment de plantations qui étaient en pleine production. Et c'est ainsi que nous nous sommes lancés dans la transformation en 2000. Vraiment, il y avait beaucoup de préjugés sur cette activité. On disait que c'est un travail ardu, minutieux, qui demande beaucoup de perfection, beaucoup de finesse. Donc, ce n'est pas fait pour nous, les femmes africaines. C'est les femmes indiennes qui étaient outillées pour ça. Nous avons cru en nos femmes. Je suis d'une région où le taux d'analphabétisme est très élevé au niveau des femmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons fait l'usine. Et les femmes sont venues, la plupart ne savaient pas lire et écrire.
Vous avez combien d'employés femmes aujourd'hui?
750 femmes sur 850 au total. C'est les femmes qui travaillent beaucoup plus dans cette industrie-là. Mais l'exportation de la noix brute se fait uniquement en Asie. Et c'est eux qui fixent également le prix, c'est eux qui nous proposent des contrats. Le Vietnam et l'Inde, c'est pas ça l'objectif. Nous n'allons pas continuer à contribuer au développement de l'économie asiatique à notre détriment. Nous avons gagné le pari de la production. Maintenant, l'objectif que nous avons, c'est de pouvoir gagner le pari de la transformation.
Pour l'instant, combien de la production nationale est transformée?
Moins de 10% des 550 000 tonnes sont transformées. Nous serons heureux lorsque nous aurons la capacité de pouvoir transformer la quasi-totalité de la production nationale. C'est à ce prix seulement que nous dirons que nous avons gagné notre bataille. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique produit, l'Afrique ne transforme pas. Et les gens viennent de partout pour venir prendre le produit de l'Afrique. S'ils ne viennent pas, on aura nos produits sur la main. Si nous n'apprenons pas maintenant à transformer, qu'est-ce que nous allons faire ?
Alors nous restons en compagnie de Massogbé Touré Diabaté. Deux pays transforment en fait la noix de cajou ivoirienne aujourd'hui. Il y a le Ghana, juste à côté, qui a beaucoup investi d'ailleurs dans ce secteur. Et puis le Vietnam qui donc, grâce aux noix de cajou africaines, est devenu le premier exportateur mondial de noix de cajou transformées, celles que nous consommons et achetées dans les supermarchés. Un manque à gagner évidemment énorme pour l'économie ivoirienne, qui ne profite pas de la valeur ajoutée de ce produit qu'elle pourrait vendre plus cher si c'était transformé sur place. Mais Massogbé Touré Diabaté, PDG de l'usine de transformation Cita, a compris le problème. Il faut étuver, décortiquer, peler pour rentabiliser et arriver donc aux fruits secs que nous consommons avec plaisir.
Là, on va ouvrir ce carton. Vous voyez, c'est pas des noix, c'est des amandes. Les amandes blanches. Et c'est emballé sous vide. Voilà, ce que vous voyez, c'est l'amande cajou. La noix de cajou transformée, on dit amande cajou. À l'usine, nous faisons la salaison, on fait les salés grillés, on fait les fritures avec, on fait les amandes blanches à la vapeur sans huile, on fait plusieurs variétés, etc.
En 2000, vous avez ouvert votre usine de transformation de noix de cajou, et puis il y a eu la crise à partir de 2002. Comment ça s'est passé pour votre entreprise à ce moment-là?
Nous avons fermé en 2002, et nous pensions que c'était quelque chose qui allait se passer bon rapidement. Donc nous étions en pleine expansion. Vous imaginez tous les projets, tout ce qu'on avait. 10 ans de problèmes en tant qu'opérateur économique, nous avons payé cash. Parce que c'est un produit d'exportation et c'est exporté à 98%. Avec le contexte du pays qui était sous embargo et il n'y a pas d'accompagnement financier, c'était pas facile. C'est une page sombre. Tout ce qu'on avait fait, il fallait reprendre tout. Il y a des machines qui sont grippées, il faut les reprendre. Les 10 années nous ont créé beaucoup de tort, surtout en termes de formation. Il n'y a pas de formation pour les cajouculteurs. Donc tout ça pend sur le terrain. Nous avons formé des gens, nous avons investi ici du personnel. Quand il y a eu la crise, on a arrêté, tout le monde est parti. À la reprise, il faut reprendre encore. Donc nous continuons la formation pour qu'on puisse atteindre un niveau de performance. C'est ça la différence entre nous et l'Asie. Et une société qui se porte bien, c'est cette même société qui maîtrise la ressource humaine de qualité.
La Côte d'Ivoire produit un grand nombre de noix de cajou, c'est le deuxième producteur mondial, mais ces noix de cajou sont transformées pour une certaine partie, 25% au Ghana, sont transformées aussi au Vietnam. Quel est votre regard là-dessus?
C'est un regard d'activiste. Mon regard se tourne vers le gouvernant, qu'il y ait une bonne volonté politique, encourager, inciter les opérateurs nationaux comme internationaux à pouvoir s'engager dans la transformation de notre matière première qui nous est chère. Cette volonté politique que nous demandons, c'est simple, c'est de pouvoir mettre des mécanismes en place en matière de fiscalité, en matière d'exonération sur le matériel de construction, sur le matériel aussi que nous importons, les machines et tout. Si nous arrivons à transformer, en ce moment-là, on n'aura pas seulement les Asiatiques comme clients, mais on aura l'Europe, on aura les États-Unis. Le Moyen-Orient, on aura tout le monde.
Avec les noix transformées.
Avec les noix transformées. Il faut que très vite et maintenant, qu'on parte à l'industrialisation. Aujourd'hui, nous n'utilisons pas toute la chaîne de valeur pour ce qui concerne la transformation. Et après les résidus, nous pouvons presser aussi les coques pour avoir le baume cajou qu'on appelle le CNLS, qui est bien prisé sur le plan international par les multinationales qui sont spécialisées dans la fabrication des voitures de luxe, les systèmes de freinage des avions, etc. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes juste au début de l'exploitation. Et en transformant, nous créons de la richesse, nous créons de l'emploi.
Selon la Banque mondiale, d'ailleurs, l'industrie de la transformation de la noix de cajou pourrait générer 40 000 emplois en Côte d'Ivoire.
Oui, la noix de cajou joue le rôle du café cacao dans le Nord. Et nous disons aujourd'hui que c'est l'or blanc du Nord.
L'or blanc du Nord, voilà pour le portrait de Massogbé Touré Diabaté. Ça vous inspire la noix de cajou made in Côte d'Ivoire, François Siegel?
Ah oui, ouais. D'abord on aura envie d'en goûter, là. C'était, on avait envie.
Elles sont
là.
Très bonnes.
Ça donnait envie, hein. Ça avait l'air bon, c'est dommage qu'il n'y en ait pas dans le studio. Et puis bah, ce qui est intéressant globalement, c'est tout ça c'est totalement moderne, j'allais dire que c'est totalement oui demain, parce que c'est quoi le monde de demain? C'est la
la reprise de contrôle par le citoyen, effectivement, de tous les pouvoirs qui lui ont échappé. Hein, ce qu'on appelle le mot savant anglais, l'empowerment. Mmh. Donc, qu'est-ce que fait cette dame? Effectivement, elle reprend, je dirais, des pouvoirs qui appartenaient à un pays, qui appartenaient à une tradition, etc., et qui ont échappé parce qu'effectivement, voilà, les multinationales sont arrivées par là. Donc, c'est totalement oui demain, et c'est en train de, c'est comme ça que la société est en train d'évoluer et de bouger.
Yves Yard?
Oui, c'est absolument merveilleux ce que fait cette femme. Et effectivement, on s'aperçoit que on est plus à même de réussir quand on fait les choses nous-mêmes plutôt que de se les faire imposer par une administration.
Vous vous intéressez parfois à l'agriculture dans vos sujets?
Oui, bien sûr, quand on s'intéresse à l'agriculture, c'est un sujet extrêmement important. D'une part, parce que l'agriculture alimente le monde. L'agriculture est génératrice de gaz à effet de serre et on s'aperçoit qu'il y a une véritable mainmise sur l'agriculture d'un certain nombre de grandes entreprises dites multinationales qui empêchent les petits paysans de nourrir le monde. Mmh. Et en fait, en réalité...
Et qui pourraient produire de l'énergie, d'ailleurs, rien qu'avec déjections des bovins, c'est le cas dans un de vos reportages.
Absolument, mais on s'aperçoit que les petits paysans, dans le monde, ont une productivité bien meilleure que les grosses entreprises agricoles, à agriculture intensive.
Merci en tout cas à vous d'être venu, François Siegel, Yves Heuillard. Oui, demain, c'est sur papier pour la beauté, pour le plaisir de tourner les pages, et ça ne meurt jamais. Et puis, évidemment aussi, sur Internet, on va redonner le site, l'adresse du site internet.
www.ouidemain.fr.
Voilà, bon, il suffit de taper Oui Demain sur un moteur de recherche, vous tombez dessus. Merci à vous, les voisins, pour vos messages, et merci à l'équipe Éléonore Krenik, Romain Dubrac, pour toutes vos réactions. Évidemment, vous pouvez encore nous écrire à une adresse mail, 7milliards@rfi.fr, bien sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis réécouter toutes nos émissions en podcast dès maintenant, tous les jours de la semaine sur rfi.fr. À la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons de la réforme du collège en France, très chaude, mais peut-elle réduire les inégalités scolaires? À demain.